Et c'est un sujet qui tombe à point pour Annie Boilan, notre spécialiste en ressources humaines aujourd'hui. Que se passe-t-il quand Cupidon passe au bureau? Salut Annie!
Bonjour Valérie!
Hey, ça fait, je disais là juste avant la pause, qu'un Canadien sur trois vit ou a vécu une relation amoureuse au travail. Ça fait pas mal de monde, ça?
Ça fait beaucoup de monde, hein? Effectivement, il y a des fois, il y a des gens qui sont surpris par cette statistique. Certains la remettent en question. Je me permets de nommer que c'est le même pourcentage en Europe. Donc là, ça commence à faire un grand bassin d'employés et d'amoureux. Puis gardons aussi en tête qu'avec les relations, le mode de travail en mode virtuel, le fait qu'on fait beaucoup de télétravail, il y a des gens qui télétravaillent à 100%, mais parfois, il y a des relations amoureuses qu'on ne voit pas parce que ça devient moins perceptible là, quand on ne se voit jamais au bureau. Mais oui, alors une personne sur trois qui a connu ou vit présentement une relation amoureuse au travail. Puis il y a également au Québec 19 % des gens qui disent avoir rencontré leur époux-épouse au travail.
Ah, bien, ça fait pas mal de monde, ça.
Oui.
Puis, est-ce qu'on doit le dire ou on ne doit pas le dire si jamais l'amour se développe avec un ou une collègue?
Ça, c'est une belle question, Valérie, parce que moi, je côtoie souvent des gens qui vivent un certain malaise. Souvent, on m'interpelle, on me pose la question en catimini, suis-je obligée de le dire, puis-je perdre mon emploi parce que je suis en amour avec quelqu'un au travail? Alors, la réponse, je démystifie ça entre nous, quatre scénarios. Premier scénario, deux collègues de travail, donc ici, il n'y a pas de lien hiérarchique, dans la même entreprise, mais des équipes différentes. Aucun souci, aucune obligation de dévoiler quoi que ce soit. Deuxième scénario, deux collègues de travail, mais cette fois-ci dans la même équipe. Donc là, ils partagent les mêmes collègues, confrères, consoeurs de travail. Ce n'est pas une obligation de le dévoiler, mais pour rester pratico-pratique, souvent les collègues vont finir par s'en rendre compte.
Ouais. Hein?
C'est pas trop compliqué, là, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, puis là, on finit par connecter les points.
Ouais.
Les gens font toujours la même affaire. Donc, souvent, on va parler ici plus d'une divulgation volontaire. Troisième situation, je suis en amour avec mon patron. Moi, comme employée, suis-je dans le tracas? La réponse, c'est non. Moi, j'ai pas à dévoiler, puis je ne suis pas dans le tracas, puis je ne perdrai pas mon emploi pour ça. Maintenant, dans mon quatrième et dernier cas, mon patron est en amour avec moi. Et là, oui, il peut y avoir un souci. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts qui est présent immédiatement. Et le patron va devoir le déclarer tout de suite, minimalement aux ressources humaines, possiblement son supérieur à lui ou à elle. Et il va s'engendrer une suite d'événements parce que, en général, on va tenter de défaire la relation de subordination, employé qui se rapporte directement à son patron, et sa relation amoureuse. Là, quand c'est les deux mêmes personnes qui sont ces quatre scénarios, on va tenter de défaire la relation hiérarchique.
Okay.
Pour ce faire, parfois, on va déplacer l'employé dans une autre équipe. Parfois, c'est le gestionnaire dans une autre équipe en fonction de la taille des équipes. Parfois, on va mettre certains employés sur des chiffres de travail différents de façon à ce qu'il n'y ait pas cette relation de subordination. Mais minimalement, on va demander à un tierce gestionnaire de s'impliquer, notamment au niveau de l'évaluation de la performance de l'employé, d'intervenir en cas d'écart de performance et définitivement au niveau de la détermination de l'augmentation salariale. Alors, on comprendra, Valérie, puis c'est sympathique de discuter ça avec toi, mais on comprendra que le patron ne peut pas décider seul de l'augmentation salariale de sa conjointe ou de son conjoint. Et là, le conflit d'intérêts devient imminent, là, évident.
Ce qui est arrivé avec M. le directeur Paquet, c'est que j'étais à CJSO 19 ans avant son arrivée et tout le monde était au courant que c'était mon amoureux avant qu'il arrive. Donc, on s'est protégé de tout ce qui pourrait arriver.
C'est ça. Et là, c'est M. Paquet qu'on tente de protéger dans l'histoire, donc en le divulguant, en prenant les mesures nécessaires, en s'assurant que toutes les parties soient confortables avec la situation, incluant le conseil d'administration. Là, il n'y en a pas de souci. Mais quand même, ça se pourrait. Ça se pourrait quand il va y avoir, s'il y a des situations particulières, qu'il y a un tiers gestionnaire ou un membre du conseil d'administration qui soit impliqué pour s'assurer qu'il y ait apparence. Et également que toute la situation soit conforme.
Et ça, c'est bien correct. Annie, est-ce que les amoureux peuvent être congédiés? Est-ce que l'employeur peut empêcher les relations amoureuses au travail?
Valérie, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer.
C'est plus fort que la police, qu'on dit des fois.
Oui. Donc non, l'entreprise peut certes se doter d'une politique pour encadrer les relations amoureuses au travail. Mais une telle politique ne pourra pas empêcher les gens de tomber en amour les uns avec les autres. La politique pourra intervenir ben, définitivement au niveau du conflit d'intérêts, mais également si la relation amoureuse a une incidence sur l'équipe. Mais c'est l'incidence qu'on va encadrer, pas l'amour. À savoir, par exemple, si ça avait une incidence sur la réputation de l'entreprise, la capacité des gens de faire leur travail, si ça avait une incidence, par exemple, sur le climat de travail ou l'environnement, puis les autres équipiers, là, l'entreprise pourrait intervenir. Et parfois, on va le spécifier dans la politique qui encadre les relations amoureuses. Et je te fais sourire, Valérie. Quand on demande au Québec, aux gens, votre entreprise a-t-elle une telle politique?
Ouais.
65 % des gens nous disent oui.
Ah oui.
Et dans les faits, c'est seulement 35 % des entreprises au Québec qui se sont dotées d'une politique qui encadre les relations amoureuses. Donc, on voit qu'on a tendance à le surestimer. Mais là, par souci de transparence, je réitère que l'histoire du conflit d'intérêts, il n'émane pas de la politique de relations amoureuses. Le conflit d'intérêts, il émane de la du contrat d'emploi, de la relation d'employé-emploi avec du gestionnaire dont nous parlions tantôt. Donc, politique ou non, l'histoire du conflit d'intérêts s'applique.
Ouais, mais puis en plus, quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais des fois, quand le couple n'est plus un couple, là, il pourrait y avoir des petits soucis. Hein?
Oui, et nous, d'un point de vue ressources humaines, on voit des petits gros soucis.
Oui, oui, oui.
Là, nous sommes le 14 février, Valérie, nous parlons de ça. Tout le monde fait « Oh, c'est cute! » Mais quand, par exemple, juste la partie flirt du début, des comportements peuvent s'apparenter à des comportements de harcèlement. Tout est dans les yeux de la personne qui le reçoit. Là, peut-être que c'est consensuel, puis c'est souhaité, puis tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut s'apparenter à du harcèlement. Donc, nous, en ressources humaines, on est très frileux.
Ouais.
Pendant la relation, il y a aussi souvent des comportements qu'on va encadrer en réitérant qu'on s'attend des amoureux qu'ils aient le même comportement au travail entre eux que n'importe quel autre collègue. Par exemple, il n'y a pas de minouchage, là. Il n'y a pas de petits bisous dans les réunions, puis on ne se promène pas main dans la main dans les corridors. Donc, ça aussi, pour les ressources humaines, c'est un point de vigilance. Puis définitivement, comme tu nommes, Valérie, le après. Hmm. Que toi, moi et certains éditeurs savent que parfois, ces relations, elles finissent, pas nécessairement dans le meilleur des deux mondes pour tout le monde. Et parfois, il y a un des amoureux qui va tenter une reséduction. Et là, à nouveau, on repile sur le terrain du harcèlement. Donc, nous, en ressources humaines, on va rapidement, là, lorsqu'il y a une fin d'une relation entre deux employés, intervenir pour réitérer les bons comportements, repasser les politiques de prévention du harcèlement sexuel et psychologique, souvent refaire signer des documents à cet égard, parce que c'est ça qui est sensible.
Bon, on va souhaiter plein d'amour aux travailleurs à l'écoute. Annie, je te souhaite une belle Saint-Valentin, puis on se reparle la semaine prochaine.
Toi aussi, très cher.
Bye.
Au revoir.
Bye.